Parfait.
Bonjour à tous, au présent comme au futur présent. Nous écoutons donc Jean Dombre sur la thématique générale de l'année, à quoi a servi la modélisation mathématique et ce qu'elle n'a pas pu faire, avec aujourd'hui une conférence sur la question du retour à Aristote. Et je pense que je peux spontanément remercier l'ICSI pour. Et aussi d'ailleurs le laboratoire Triangle pour l'organisation de ce séminaire. Jean, c'est à toi.
Merci beaucoup. Bonjour d'abord à tout le monde. Je remercie également l'ICSI puisque au fond, c'est la première conférence, en tout cas en système électronique, Zoom, etc. Et c'est une bonne chose, je crois que ça. Enfin, j'en suis content que ça puisse recommencer pratiquement. Alors, j'ai choisi donc un thème un peu provocateur, hein, le retour à Aristote. Juste pour rappeler dans quelles conditions je veux faire ça et quel est mon sujet véritablement. Au fond, je voudrais essayer de déterminer qu'est-ce que cela veut dire faire de la physique mathématique. C'est clair que il n'y avait pas de physique mathématique du temps d'Aristote. Nous sommes sûrs que disons ceux qui ont les premiers parler de physique mathématique, c'est au XVIIe siècle. De façon précise, c'est certainement Marin Mersenne qui a employé le premier le mot. Alors, pas physique, d'abord il l'a employé en latin, et donc est-ce qu'il met mathématiques en premier, physique en second, ou physique en premier, enfin l'autre sorte, il ne sait pas lui-même, et puis le latin ne fait pas la même chose que nous, une belle chose ou une chose belle, ils ne savent pas faire la différence, alors qu'en français on fait un jeu. Bref, l'essentiel c'est partir d'un phénomène que Aristote serait plutôt l'homme, le savant, l'intellectuel, le philosophe, qui empêche toute véritable communication entre physique et mathématiques. Au nom d'une idée forte, qui est une idée que nous pouvons qualifier de métaphysique, je pense qu'il la qualifierait aussi de métaphysique, à savoir que la physique s'occupe du réel, les mathématiques, on ne sait pas très bien quel est le réel dont ils s'occupent, ce n'est pas du réel, ça peut être des artefacts, ce n'est certainement pas, je parle d'Aristote, ce n'est certainement pas quelque chose qui se trouve dans le monde des idées, c'est quelque chose qui est intermédiaire en quelque sorte. Et la vraie science, c'est la physique, laquelle entraîne, permet d'aller vers la métaphysique. Il est évident qu'au XVIIe siècle, un Descartes change tout le processus, puisqu'il pose, lui, la métaphysique d'abord et la physique ensuite. Ce qui est étonnant chez Descartes, c'est qu'il oublie de parler des maths. Je veux dire, dans son arbre des connaissances, dans son arbre du savoir, il parle des maths, car il en fait, mais pour lui, ça ne fait pas partie, en quelque sorte, d'une sorte de oui, on peut le dire comme ça, d'une sorte de théorie de la connaissance. C'est tout à fait surprenant. Et mon sujet, ce que je veux essayer de montrer, c'est que autant Aristote, pour une fois rigolard, nous explique que la liaison entre mathématiques et mécanique est risible, c'est-à-dire qu'on ne peut rien en faire. C'est le jeu du paradoxe qu'il utilise dans un ouvrage très particulier, ce qu'on dit en latin, les questiones mechanicae, les questions sur les mécaniques, que l'on en grec c'est simplement mechanica, mais en fait il faut vraiment traduire, je crois que c'est ça le sens, il faut dire questions sur, car constamment, il y a 24 ou 25, ça dépend, enfin bref, peu importe, ça dépend selon les éditions et ce qui nous en reste. À chaque fois, la question c'est est-ce qu'il est vrai que, ou comment est-il possible que? Et alors, il y a les questions qui sont presque de l'érotomanie, à savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir un lit, pas pour être tout seul, hein, est-ce qu'il vaut mieux avoir un lit large mais court, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un lit long mais étroit. Bon, alors on a envie de dire, eh. Ben, ouais, mais à chaque fois, quand la question se passe sur, pour le dire vite, hein, si j'ai deux vitesses ou si j'ai deux forces qui tirent pas dans la même direction, nous dirions qu'ils forment le parallélogramme des forces, etc. Est-ce que c'est juste de prendre la petite force et la grande force, de prendre la diagonale, mais la diagonale où? Est-ce qu'on prend la diagonale comme nous le faisons à partir de l'origine des deux forces, ou est-ce qu'on regarde de l'autre côté? Et toute la question, c'est bien fait, mais attention, c'est un peu bizarre qu'on soit obligé de faire ceci plutôt que cela. Est-ce qu'on peut le justifier? Et on a un phénomène qui revient constamment à dire, ben, je sais pas. Je ne sais pas vraiment. Alors évidemment, l'exemple le plus fameux, c'est ce qui va servir à Galilée pour son étude de la loi de la chute des corps et surtout son étude de qu'est-ce qui se passe quand je jette un projectile en l'air. Ça monte, hein, je le jette en l'air, disons avec une tangente oblique, je le jette en l'air et que se passe-t-il? Eh bien, il monte. Oui, mais à un moment donné, il s'arrête de monter, ça tout le monde l'a vu, et puis il va redescendre. Et alors la question c'est quoi? Quand il s'arrête là, il a encore une vitesse ou il n'a plus de vitesse? Nous savons, et c'est ça la force de la démonstration, de l'explication galiléenne, qui est en même temps l'énoncé d'un principe d'inertie, pas d'une façon très générale, mais enfin quand même, à savoir que si on regarde la projection horizontale de la vitesse quand je jette mon objet en l'air, elle est constante. C'est-à-dire que là-haut, quand il s'arrête en quelque sorte, parce qu'il donne l'impression de s'arrêter, et en fait, il a toujours la même vitesse horizontale. C'est un beau paradoxe. Alors, donc, ma question, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est comment, par quels moyens, finalement, on peut dire que l'idée d'une liaison, d'une vraie liaison, pas une hiérarchie, une vraie liaison entre mathématiques et physique, j'allais dire une liaison à égalité entre mathématiques et physique, s'est installée. Alors, je ne suis pas en train de dire, il y a la physique, c'est ce qui est expérimental, et les mathématiques, c'est ce qui met en formule théorique. Non, non, ça, c'est une autre façon de voir. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est, dans la pensée au XVIIe siècle, c'est vraiment conceptuel. Est-ce qu'il y a des concepts qui sont façonnés, organisés par les mathématiques seules? Est-ce qu'il y a des concepts, vitesse par exemple, qui sont organisés par un autre mode qui est la physique. Alors, bien sûr, comme les concepts en question, ben, le continu, la vitesse, j'ai parlé de ça, mais le continu, l'infini, c'est de la mathématique ou c'est de la physique? Alors, Aristote cite une des phrases les plus étranges. Alors, il ne le cite pas dans la physique, il ne le cite pas dans les parties scientifiques, il la cite uniquement dans une partie morale. Bon, alors peut-être qu'il est comme bien des moralistes, il joue sur la métaphore, etc. Mais enfin, quand même, Aristote qui dit explicitement, les pythagoriciens nous disent que l'infini, c'est la faute. C'est l'erreur. Alors, c'est extraordinaire. Alors, bon, je ne vais pas discuter. Il y a 3, 4, 5 traductions différentes. J'adore celle qui traduit par l'infini, c'est le péché. Parce que vraiment, trouver un péché chez Aristote, hein, il faut rajouter. Mais, avec les traducteurs, tout est possible. Ceci dit, quand même, il y a cette idée assez profonde que certaines notions, je ne peux pas en avoir une définition mathématique. Je peux peut-être en avoir une définition physique, c'est la question, ou cela relève de la métaphysique, c'est-à-dire de quelque chose d'autre. Bon, très bien. Voilà. Ma question, c'est dans ces vraies difficultés, comment était pratiquement aussitôt détourné? Ce n'est pas le cas. ce n'est pas le cas de ce qui arrive en même temps. Je vais aller vite là. Ce qui est allé en même temps, je vous montre des images que j'aime bien. Et j'ai pris volontairement les images tirées, toutes mes images, à part la première que je vous donnais avec le Theta, mais je l'ai dit, toutes mes images sont d'époque. Il faut pas, je ne refais pas. Alors cette image, je suis sûr que vous l'avez vue plusieurs fois. C'est l'image qui se trouve dans les météores, qui est un essai de Descartes qui vient à la suite de son discours de la méthode. Et c'est l'image, fameuse image, qui explique l'arc-en-ciel. Alors, bon, c'est l'arc-en-ciel, donc c'est remarquablement représenté avec quelques conventions, qui sont des conventions typiques du XVIIe siècle, où la perspective et l'optique jouent leur rôle. Ce n'est pas tout à fait évident quand on regarde a priori les choses. Vous avez quand même deux grandes courbes là qui sont représentées. Vous n'allez pas me dire que vous trouvez que ce sont des cercles. Il y a un problème. Vous envoyez un cercle, mais un cercle qui devrait être invisible. Hein. Vous avez un cercle A, B, C, D, G. Il devrait être invisible parce que c'est le cercle qui est représenté comme la coupe d'une goutte d'eau. Toute petite, 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 elle est représentée géante. Petite remarque, je suis sûr que, d'abord, Descartes le fait exprès, et le fait exprès, c'est aussi pour démontrer que les relations angulaires que vous avez dans cette goutte d'eau ne dépendent pas de la taille de la goutte. Il n'y aurait pas d'arc-en-ciel si les lois de la, les lois de comment s'appelle, de la réfraction n'étaient pas celles qu'elles sont, c'est-à-dire s'il y avait une dépendance, là en l'occurrence, une dépendance avec la taille de la goutte. C'est un changement d'échelle. Hein. Je suis sûr que Descartes fait exprès. Il nous montre un arc-en-ciel. Il y avait un arc-en-ciel, un deuxième arc-en-ciel, et une goutte gigantesque. Et il y a toute une explication. Alors, pourquoi je donne cet exemple comme typique de la physique mathématique à ce moment-là, hein, 1637. Essentiellement parce que il faut suivre la présentation de Descartes. Il faut le lire, et le lire ligne à ligne. C'est très court, hein, la partie de l'arc-en-ciel. Quoi, il y a 8 pages l'essai sur les météores, sur l'arc-en-ciel. Hein, c'est le chapitre 8, sauf erreur de ma part, peu importe. Il y a très peu de pages, et la lecture, c'est d'abord, Descartes commence par une expérimentation. Il prend un flacon, et il le remplit d'eau, il y a un soleil ou une lumière, et il regarde et il le monte. Il a la possibilité de monter en altitude, en quelque sorte, son flacon, le soleil, et à un moment donné, il ne dit pas « je vois un arc-en-ciel », à un moment donné, il y a une luminosité rouge qui apparaît. Il n'y a pas insisté trop sur cette luminosité, mais il y a plus de luminosité. Et c'est ça son point de vue, c'est-à-dire je l'ai quand j'élève d'une certaine hauteur. Il y a un certain angle à partir duquel les choses se voient, et c'est moi qui le vois. Donc vous voyez aussi son dessin, il y a un bonhomme qui voit un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel n'est lié qu'à la position de l'homme. L'arc-en-ciel n'existe pas en soi. C'est parce que je regarde, moi, dans une certaine direction, dans un nuage où il y a des gouttes d'eau, que je vois un arc-en-ciel. Sur le plan théologique, ça fait mal. Hein. Si on accepte que l'arc-en-ciel, souvenez-vous de l'affaire de Noé, l'arc-en-ciel est l'alliance que Dieu... Alors, vous pouvez le transformer, mais c'est l'alliance que Dieu passe avec l'homme. Ah oui, mais s'il n'y a que l'homme qui le voit, et un seul homme, à un seul endroit... Il n'y a que Noé, alors d'accord, okay. Alors, vous voyez la difficulté qui est soulevée hein, à cette époque-là.